Suivez Priorité Santé et faites un bon voyage avec Suno Assurance, qui vous garantit une assistance médicale d'urgence pendant votre séjour, ainsi que la recherche de vos bagages en cas de perte. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. On parle d'un sujet encore tabou aujourd'hui dans Priorité Santé, les hémorroïdes. Pour certains, les hémorroïdes, c'est comme gagner au loto, ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, environ un adulte sur deux, âgé de plus de 50 ans, connaît bien le problème, sans parler des femmes enceintes qui sont elles aussi très souvent concernées par le sujet. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup plus de gens victimes de crises hémorroïdaires que de gagnants du loto, ainsi va le monde. Les hémorroïdes sont des veines dilatées qui se forment dans l'anus ou dans le rectum. Il est normal que les veines de la région anale se gonflent légèrement au moment de la défécation, mais contrairement aux veines normales, les hémorroïdes restent dilatées en permanence. Les symptômes sont occasionnels et facilement reconnaissables, des démangeaisons, une sensation de brûlure, un inconfort en position assise ou des saignements lorsqu'on va à la selle. La plupart des personnes qui souffrent d'hémorroïdes parviennent à soulager leurs symptômes avec des pommades. Il arrive cependant que des hémorroïdes génèrent des douleurs persistantes ou un inconfort presque permanent. Dans ce cas, un traitement médical peut être envisagé. Alors, quels sont ces traitements, justement? Quels sont les signes qui nous indiquent qu'il faut consulter? Quelles sont les principales causes des hémorroïdes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, le professeur Patrick Atienza, chef du service de proctologie médico-interventionnelle du groupe hospitalier Diakonès Croix Saint-Simon à Paris. Et nous serons également en ligne avec le professeur Jean-Baptiste Massouvou-Kombila, chef du service des patho-gastro-entérologie du CHU de Libreville au Gabon. Et enfin, nous parlerons d'AfroScreen, un programme de riposte contre la Covid-19 pour renforcer la surveillance de l'évolution des variants dans 13 pays d'Afrique. Les explications du docteur Eric D'Ortenzio, médecin épidémiologiste, à la fin de cette émission.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Patrick Atienza, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Y a-t-il une différence entre les hémorroïdes et la crise hémorroïdaire?
Bien sûr, c'est-à-dire que les hémorroïdes, c'est une formation physiologique. C'est comme si vous disiez, j'ai des tympans. Tout le monde a des hémorroïdes, internes et externes.
Ce sont des veines, en fait, c'est ça?
Alors, c'est pas des veines. Sur le plan scientifique, c'est tout à fait particulier dans l'organisme. C'est l'association de vénules, de chintes artério-veineux et d'artérioles. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout la structure d'une veine. Mais évidemment, les gens de laboratoire essayent d'entretenir la confusion. Et donc, ces formations vasculaires, le plus souvent, sont asymptomatiques, mais parfois peuvent devenir très grosses sur le plan du volume et très pénibles sur le plan des symptômes.
Alors, les hémorroïdes, il y en a donc des externes et des hémorroïdes internes. Quelle est la différence? Est-ce que c'est juste une question de localisation?
Alors,
rectum, anus.
Alors non, déjà, toutes les hémorroïdes sont dans le canal anal, c'est-à-dire le rectum, c'est un réservoir plus haut situé. Les hémorroïdes internes sont dans la partie haute du canal anal, et les hémorroïdes externes sont dans la partie basse, donc en gros, presque sous la peau de la marge anale. Donc ça, c'est la première différence, comme vous l'avez dit, géographique, si je puis dire. La deuxième, c'est que les hémorroïdes internes sont recouvertes par de la muqueuse qui n'est pas sensible à la douleur, alors que les hémorroïdes externes sont recouvertes par de la peau, donc évidemment très sensible à la douleur. Donc les traitements pour les hémorroïdes internes ne peuvent pas être faits sur les hémorroïdes externes, parce que c'est dans ce moment-là des douleurs très importantes.
C'est pour ça qu'on dit que les hémorroïdes externes sont plus sensibles, c'est... Parce que ce que vous venez d'expliquer, c'est ça?
C'est-à-dire que les gens se plaignent le plus souvent d'hémorroïdes externes ou de symptômes sur les hémorroïdes externes, comme les démangeaisons, les prurites, parce que, évidemment, c'est plus sensible au niveau du ressenti.
Le risque qu'un caillot de sang se forme dans une veine dilatée est plus grand avec les hémorroïdes externes ou internes?
Alors, généralement, les gens consultent pour les hémorroïdes externes, puisque avec ce caillot s'associent des douleurs. Mais il peut exister également des thromboses dans les hémorroïdes internes qui souvent, sauf si elles sont très importantes, sont parfois asymptomatiques. On les découvre, nous, en tant que médecins, lors de l'examen.
D'accord. Comment évoluent les hémorroïdes internes si on ne fait rien pour freiner l'évolution?
Alors, les hémorroïdes internes peuvent évoluer en augmentant de volume et en devenant, je dirais, trop grosses pour le canal anal. Donc, elles sortent à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle le prolapsus hémorroïdaire. Et ça peut entraîner donc une gêne, parce que les gens ont en permanence un suintement. Ça entraîne de la muqueuse rectale ou du haut canal anal, plutôt dans la partie externe de l'anus. Donc, ça entraîne des suintements, un peu de saignement.
C'est un inconfort parce qu'on peut le remettre soi-même en place, c'est ça ?
Alors, au début, oui.
À un certain moment, c'est ce que j'allais dire.
Voilà. Et puis après, quand c'est vraiment extériorisé complètement et tout le temps, c'est ce qu'on appelle les hémorroïdes grade 4, car c'est le prolapsus hémorroïdaire interne qui définit le grade des hémorroïdes. Tout le monde a des hémorroïdes, donc tout le monde a des grades 1. Puis ensuite, vous avez des hémorroïdes qui sortent et qui rentrent, ou qui sortent et qui ne rentrent plus. Là, c'est le grade 4, et à ce moment-là, le traitement est essentiellement chirurgique.
Là il faut consulter. Quels sont les symptômes et sont-ils différents en fonction de leur localisation, justement, ce qu'on vient de dire alors, c'est pas rectum ou anus, comme j'ai dit, c'est le canal.
Voilà, haut canal anal ou bas canal anal, en sachant que le haut canal anal est peu sensible à la douleur. Il y a des récepteurs, mais qui ne sont pas de nature douloureuse. Et puis le bas canal anal, qui lui, avec les hémorroïdes externes, est recouvert par de la peau, donc très sensible. Donc effectivement, si vous avez une pathologie des hémorroïdes externes, vous avez tendance à avoir mal. Et des hémorroïdes internes, sauf le prolapsus, généralement, vous pouvez avoir des thromboses peu douloureuses.
Quels sont les facteurs de risque ? Une question qui intéresse nos auditeurs, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus.
Alors, la maladie hémorroïdaire garde encore ses mystères, mais ce qu'on sait sur le plan scientifique, c'est essentiellement le transit. Il faut que le transit soit idéal, c'est-à-dire la constipation ou la diarrhée peuvent être cause de thrombose hémorroïdaire. Chez la femme enceinte, bien sûr, 80% des femmes commencent leur maladie hémorroïdaire lors de grossesse ou lors d'accouchement.
Ça, on reviendra effectivement sur les cas des femmes enceintes, parce qu'elles sont très nombreuses et elles ont beaucoup de questions à vous poser également.
Tout à fait. Et puis, c'est des formes de thrombose tout à fait particulières. C'est-à-dire, c'est pas une ou deux thromboses, c'est des espèces de multitude de thromboses circonférentielles.
Pourquoi, lorsqu'on souffre d'obésité, on est plus propice à développer des crises d'hémorroïdes ? Est-ce qu'il y a un lien entre obésité et crise d'hémorroïdes ?
Alors, le lien, il faudrait le prouver. Je crois qu'il n'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est vrai que souvent, les gens qui ont une obésité ou une surcharge pondérale ont des troubles du transit, soit parce que...
Ah, donc, c'est lié au transit, pas à l'obésité, c'est plus le transit.
Pour l'instant, ce qui est plus prouvé, entre guillemets, si tant est qu'elle soit prouvée, c'est plutôt la notion de trouble du transit associé à l'obésité ou à la surcharge pondérale.
Quelles sont les personnes les plus à risque ? Est-ce qu'il y en a de plus à risque que d'autres ? Je pense notamment aux personnes dont les parents déjà souffrent d'hémorroïdes. Est-ce qu'il y a une transmission familiale comme ça ?
Alors, le caractère génétique des hémorroïdes reste à prouver, parce que c'est une maladie vraiment planétaire, très répandue. Donc, il faudrait faire des études qui nécessitent des moyens considérables sur une durée qui n'est pas moins considérable, puisque vous avez des gens qui font une thrombose à 20 ans, puis qui refont une thrombose à 50 ans. Et puis, entre-temps, il se passe rien. Donc, ce serait une étude gigantesque pour une maladie qui, somme toute, est dans la majorité des cas bénigne. Donc, on aurait quand même un peu de mal à mobiliser les laboratoires ou les instituts de recherche. Donc, c'est possible. Mais c'est pas du tout prouvé, et comme c'est une maladie qui est très répandue, ça va être très difficile de le prouver.
Allez, j'en reviens aux femmes enceintes avec une question Facebook de Martine du Bénin qui vous demande, professeur, comment se soigner des hémorroïdes quand ils se manifestent pendant la grossesse ?
Alors, c'est une très bonne question, c'est parce que lors de la grossesse, vous avez généralement les thromboses, et avant l'accouchement, il est contre-indiqué de donner des anti-inflammatoires qui fonctionnent très bien pour supprimer la douleur, en particulier ce qu'on appelle le kétoprofène. Mais on ne peut pas le donner parce que, surtout dans les deux derniers trimestres, ça peut fermer le canal artériel, le dernier trimestre, le canal artériel du bébé. Donc, évidemment, il ne faut pas en donner. Mais, en revanche, on peut donner des corticoïdes, la corticothérapie est tout à fait possible. Et à ce moment-là, ça entraîne là aussi une diminution de la congestion, une diminution des douleurs pendant un laps de temps très court, d'environ 5 voire 7 jours, une très courte corticothérapie qui va supprimer les symptômes. En revanche, au niveau de la période post-accouchement, post-partum, Si vous avez des thromboses hémorroïdaires, ce qui arrive assez souvent parce que l'accouchement par voie basse est passé par là.
C'est ça, en fait, c'est surtout les femmes qui accouchent par voie basse qui sont plus susceptibles.
Pas toujours.
Pas toujours.
Pas toujours,
c'est ce que
mais
j'ai lu dans la littérature.
Souvent, quand l'accouchement est assez dystocique, comme on dit, c'est-à-dire difficile, oui, les complications hémorroïdaires sont quand même plus fréquentes. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser des médicaments comme le kétoprofène, parce que à ce moment-là, le canal artériel, bien sûr, du bébé est fermé puisque le bébé est né, et donc même s'il y a allaitement, il y a moins de 1% du produit qui passe dans le lait maternel, donc c'est quasiment négligeable. Donc on peut utiliser des corticoïdes, il faut utiliser des corticoïdes avant l'accouchement, et après l'accouchement, on peut utiliser des anti-inflammatoires type kétoprofène, voire des corticoïdes.
Mais généralement, ça continue en postpartum ou ça disparaît après l'accouchement ?
Bah, ça disparaît, mais ça disparaît premièrement douloureusement, et puis ça peut nous mettre quand même...
Et il faut avoir recours à un traitement, c'est ça ? En fait, ça ne disparaît pas naturellement après l'accouchement.
Ça va disparaître dans la majorité des cas, mais au bout de 10 jours, un peu pénible. Donc, une personne qui a déjà un petit postpartum blues va se retrouver avec des douleurs importantes. Et puis, vous avez quelques cas exceptionnels où les thromboses multiples ne réagissent pas aux anti-inflammatoires. Et à ce moment-là, bah, on est même amené à faire une hémorroïdectomie, je dirais, à visée antalgique. Et les femmes nous en sont reconnaissantes. Mais c'est exceptionnel.
Alors ça, vous nous expliquerez ce dont il s'agit voilà. Juste après. Parce que d'abord, on va passer au standard, au 33-1, 84, 22, 75, 75, avec une première question de Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Soyez le bienvenu, Jean-Claude. Vous nous appelez de l'est de la Côte d'Ivoire, d'Abengourou, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Alors, nous vous écoutons. Quelle est votre question, Jean-Claude ?
Bon, je suis quelqu'un, je souffre d'hémorroïdes souvent. Et donc, je voudrais savoir si l'hémorroïde est héréditaire. Ça, alors, c'est ma première préoccupation.
Eh ben, on va déjà répondre à cette première question, et ensuite je vous redonne la parole, Jean-Claude.
Bonjour Jean-Claude, comme je l'ai dit tout à l'heure, le caractère hémorroïdaire héréditaire est possible, mais il n'a jamais été prouvé, car les études à mettre en place seraient beaucoup trop onéreuses, et sur un temps beaucoup trop long. Donc c'est vrai qu'on a des familles où le père est hémorroïdaire, la sœur est hémorroïdaire, et l'individu aussi, mais encore une fois, c'est une maladie très répandue, et peut-être que les conditions de vie aussi de la famille, qui sont à peu près les mêmes, peuvent nous orienter vers un caractère pseudo-héréditaire, mais c'est pas prouvé.
Reviens à vous, et puis je vous laisse peut-être un petit peu développer pour que le professeur Atienza soit bien au courant de votre situation. Vous avez eu d'abord des lavements, après je crois que vous avez consulté des tradipraticiens. Expliquez-nous un petit peu votre parcours, et puis ensuite posez votre deuxième question, évidemment.
Bon, au fait, comme je l'ai dit, je souffre souvent d'hémorroïdes, et donc je suis parti à l'hôpital. Bon, on m'a prescrit des médicaments. Je prends les médicaments, je fais les médicaments, mais bon, ça n'allait pas. Et le médecin m'a dit que bon, c'est pourrait que bon, on me fasse une intervention chirurgicale au niveau du rectum. Et donc, ça m'a fait un peu peur. Donc, je prenais les médicaments, mais bon, je ne suis pas parti pour qu'on fasse l'intervention. Parce que bon, j'aurais appris que après l'intervention, on peut être sur tout ça. Voilà. Et donc, j'ai continué de prendre les médicaments, mais comme je ne voulais pas qu'on fasse l'intervention au risque des cas, donc je me suis contenté des choses comme on appelle des lavements. Donc, je faisais les lavements avec les tradipraticiens. Et bon, aujourd'hui, bon, en tout cas, ça va. Donc, ce que j'aimerais poser comme question, ma préoccupation, je voudrais demander au professeur. Après une intervention chirurgicale au niveau du rectum, est-ce que le sujet peut être intéressant ?
Alors ça, c'est une question, professeur Atienza, qui revient énormément. Est-ce que les hémorroïdes, est-ce qu'une opération qui concerne la zone anale, évidemment, peut rendre impuissant ?
Alors, non. Voilà, la réponse est claire. Pourquoi ? Parce que, premièrement, on n'est pas dans le rectum, on ne met juste que les ligatures quand on fait une hémorroïdectomie dans le rectum, mais les hémorroïdes qu'on enlève sont dans le canal anal, et toute cette région anatomique n'a que peu de choses à voir, et même pas du tout, avec toute la zone d'érection ou des nerfs érecteurs qui est bien sûr beaucoup plus haute. et que ce n'est pas une chirurgie rectale, les hémorroïdes, c'est une chirurgie anale. Donc quand elle est faite correctement et sans complications, il n'y a aucune raison d'avoir des atteintes de l'érection ou autre. En revanche, si vous avez très mal aux hémorroïdes, et après une intervention, on peut avoir mal, c'est vrai, si les traitements antalgiques sont pas adaptés, effectivement, là, vous pouvez avoir des troubles de la miction, entre guillemets, pendant quelques jours, et puis, bien sûr, des troubles de l'érection, mais qui sont complètement fonctionnels et en aucun cas organiques. Une fois que la cicatrisation est faite, tout redevient comme avant.
C'est ça, c'est temporaire, c'est voilà, une gêne temporaire.
Tout à fait.
Que ce soit la miction ou l'érection, c'est temporaire.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que vous êtes rassuré, Jean-Claude? Ça ne rend pas impuissant.
Oui.
Et est-ce que du coup, ça va vous inciter à peut-être vous faire opérer? Parce que lorsqu'un médecin préconise une opération, il est quand même judicieux de suivre les conseils du médecin. Est-ce que ça vous rassure ou pas?
Bon, en tout cas, ça me rassure, puisqu'il dit que ce n'est pas au niveau du rectum en tant que tel, bon. Ça me rassure parce que souvent, quand j'ai mal, vraiment, c'est beaucoup dérangeant. Donc, ici, en tout cas, ça me rassure. Je vais y penser.
Eh bien, écoutez, merci à vous. On est content de vous avoir rassuré. Merci et très bonne journée à vous à Ben Gourou. On reste au standard 33 1 84 22 75 75 et on prend la direction du Sénégal. On va à Dakar. Adja, bonjour.
Bonjour à vous.
Soyez la bienvenue, Adja. Nous vous écoutons. Quelle est votre question pour le professeur Atienza?
Merci. En fait, je suis en couple et nous avons tous les deux une trentaine d'années. Nous avons connu nos premières crises, cela fait plus ou moins 10 ans, avec des formes différentes. C'est-à-dire que pour mon cas, la maladie ne s'est vraiment pas aggravée. Parce que j'ai eu à prendre des médicaments traditionnels dès les premières années d'apparition. Et depuis, je peux dire que je n'en souffre vraiment pas. J'ai des crises peut-être une fois à l'année ou maximum 2 fois. Et c'est différent pour le cas de mon conjoint, qui en souffre réellement et pratiquement tous les jours. Il a des crises donc tous les jours et... À chaque fois qu'il va au sel, ça fait vraiment mal.
Est-ce qu'il a pu consulter un médecin, votre mari?
Oui. Il y a juste quelques mois, il est parti voir un médecin qui lui a prescrit des médicaments, c'est-à-dire une pommade et des comprimés qu'il a utilisés, mais il s'avère qu'ils ne sont pas efficaces. En tout cas, la première semaine, ça a marché et depuis, ça ne marche plus.
Mmh. Et donc, quelle est votre question? Vous voulez savoir pourquoi ça ne marche plus ou quelle est votre question?
Non, je voulais savoir quelle est la conséquence de cette pathologie sur nos santé individuelle. Et depuis, on est mariés depuis un peu plus d'une année, plus ou moins une année, je dirais. Et voilà, le projet d'enfanter n'a pas encore réussi. Et on se demande si cette maladie-là a des conséquences sur ce projet-là.
Donc sur la fertilité, en fait. Hein, on y revient, professeur Atienza. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cas de figure Adja, qui, elle, se soigne avec des médicaments traditionnels et qui va beaucoup mieux, et son mari, qui a des pommades et un médicament... mais ça ne va pas mieux. Et puis, on répondra aussi à l'infertilité, évidemment. Je vous laisse répondre, professeur
oui,
Atienza.
Bon, bonjour Adja. Écoutez, j'ai bien écouté votre question et je pense que vous avez effectivement ce qu'on appelle des thromboses hémorroïdaires, c'est-à-dire des caillots qui se forment dans les hémorroïdes. En revanche, pour votre mari, je pense qu'il doit avoir associé ou peut-être même uniquement une fissure anale, puisqu'il a mal tous les jours. Ça doit être probablement déclenché par la selle et peut-être avec des hémorroïdes greffées par-dessus, une symptomatologie greffée. Mais en tout cas, ça fait plutôt fissuraire. C'est pour ça que les traitements purement hémorroïdaires ne marchent peut-être pas chez lui. Ça, c'est la première question. Donc, il faut qu'il soit bien examiné.
Les fissures sont une conséquence des hémorroïdes?
Alors, pas forcément. On peut avoir une fissure anale et des hémorroïdes totalement banal, puisque tout le monde a des hémorroïdes, vous en avez aussi, mais la fissure peut être une pathologie indépendante, mais aussi peut être associée à des hémorroïdes authentiques.
Voilà. D'accord.
Ça, c'est pour la première chose. Pour la deuxième chose, concernant l'infertilité, généralement, j'ai fait mon, mon DES de gynéco, mais il y a longtemps, mais je pense que c'est 2 ans, on parle d'infertilité au bout de 2 ans, de rapports assez habituels, mais compte tenu des douleurs de votre mari, je pense que s'il a mal, je pense que les rapports doivent être un peu espacés, parce qu'avoir mal au niveau de l'anus, ça retentit un peu sur tout le périnée, et c'est pas très agréable, et les rapports doivent être un peu moins fréquents que s'il n'avait absolument aucune douleur. Reste que les hémorroïdes ne jouent pas sur la fertilité, parce que premièrement, ça n'a aucune connexion avec le système hormonal gynécologique, et c'est très loin des organes gynécologiques internes, qui sont bien sûr très à distance.
Donc on va rassurer Adja, aucun problème lié à la fertilité,
voilà.
Juste peut-être des douleurs pour monsieur lors des rapports sexuels, ouais. Mais qui sont la conséquence de ces hémorroïdes.
Voilà.
C'est juste un inconfort finalement.
Et qui diminue peut-être les rapports sexuels, parce que c'est pas très agréable d'avoir des rapports sexuels avec une douleur
lorsqu'on souffre
au niveau anal, c'est clair.
Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous êtes rassurée, Adja?
Oui, ça me rassure.
Et est-ce que la réponse du professeur était complète, vous concernant?
Oui. Je voulais juste un éclaircissement par rapport...
Profitez-en, allez, on vous a à l'antenne. Allez-y.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, les hémorroïdes n'ont aucun effet sur... la qualité, par exemple, des spermes ou sur la fertilité de l'homme, c'est ça?
Non, aucun. On est dans 2 systèmes complètement différents. Vous avez, d'ailleurs, sur le plan des spécialités, c'est les urologues ou les endocrinologues qui s'occupent de tous les problèmes ou les gynécologues de fertilité, mais en aucun cas les proctologues. Donc, c'est 2 disciplines qui sont bien séparées.
Aucun lien entre les deux, Adja, soyez rassurés. On sait que c'est une question qui vous inquiète beaucoup, chers auditeurs, qui revient énormément. On va le répéter tout au long de l'émission. Rassurez-vous, aucun problème sur la qualité du sperme, la fertilité et toutes ces choses. Merci, Adja, de nous avoir appelé, en tout cas du Sénégal, et passez une très bonne journée.
Dans les moments comme, dans les moments pauvres, dans les moments où ça m'y va loin. C'est des ordres, jusqu'à l'homme miricode, jusqu'à ce que ma pluie de corde vocale fume un spliff vocal. Sur Radio Pony stoppé, Miss Pierre Weston, quand mon feu y étonne, mon vibe elle est dopée. Mon musique qui dérange, il fait Babylone. Je veux faire la musique qui rassemble, de la musique qui nous ressemble. Je veux être celle qui fait trembler, je veux être une légende. Faire des bam bam et des boum, comme un tam tam fait des ordres. La musique est passion, pas de doute. Quand on met tam frame sur la route, me métier mon âme fatale dans les ondes. Mon âme fatale c'est ma voix, mes mots c'est des bombes, de la bombe. Si le monde s'éterne ouvert, j'aimerais que ma musique s'éternise. Que la haine et la cruauté se terminent, ils vont s'en mêler les fonds avant que le mensonge nous détermine. Ma sœur, il faut qu'on s'allie pour le franchir et bénir. Cosmant, il finit 4 pattes, 400 ans, la fille à nous les 400 coups. Ben, pareil qui ou rôde encore, arrête à ou rouvouter, accorde mon y cours encore. Si le monde s'interne ouvert, j'aimerais que ma musique s'éternise. Que la haine et la cruauté se terminent, ils vont s'en mêler fausses avant que le mensonge nous détermine. Ma sœur, il faut qu'on s'allie pour le franchir et bénir.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons des hémorroïdes avec notre invité, le professeur Patrick Atienza, chef du service de proctologie médico-interventionnelle du groupe hospitalier Diakonès Croix-Saint-Simon à Paris. Et tout de suite, direction Libreville, au Gabon. Nous sommes en ligne avec le professeur Jean-Baptiste Moussavou Kombila. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service d'hépato-gastro-entérologie au CHU de Libreville. Est-ce que, professeur, les hémorroïdes sont un motif fréquent de consultation à Libreville?
Oui, on peut dire que c'est assez fréquent. En fait, nous pouvons dire que c'est à peu près 10% des consultations en gastro-entérologie ici à Libreville. Donc, pour nous, c'est quand même assez fréquent.
Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qui est tabou ou est-ce que les Gabonais en parlent librement?
Je peux dire quand même que les Gabonais, au moins 50% des Gabonais en parlent librement. Mais c'est vrai que c'est tabou pour certaines personnes parce qu'il y a également quelques idées reçues qu'ils pensent toujours qu'il y a un problème sexuel derrière, ce qui fait que bon, parfois les gens ont, surtout les hommes, d'en parler. Ouais.
Alors justement, vous soulevez un problème intéressant parce qu'on vient d'avoir deux auditeurs là au téléphone. Et à chaque fois, ce problème hémorroïde qui provoquerait une infertilité revient constamment. Comment vous expliquez ces fausses croyances justement?
C'est difficile à retrouver parce que j'ai l'impression que c'est bien ancré dans les conseils, en fait, disons que toute la société gabonaise. Parce que les hommes, la plupart des hommes, parfois, ils viennent en consultation en disant que j'ai des hémorroïdes, en fait, pour déclarer qu'ils ont des dysfonctionnements sexuels. Mais ils vont vous dire que bon, j'ai des hémorroïdes. Et c'est après, c'est en discutant, que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a rien à voir avec les hémorroïdes, c'est plutôt un problème sexuel.
Professeur Atienza, est-ce qu'en France, les hémorroïdes, c'est encore tabou? Est-ce que certains n'osent pas consulter ou consultent tard? Et est-ce qu'il y a des fausses croyances autour des hémorroïdes? Ou plus trop, on en a assez parlé?
On n'en parle jamais assez, je dirais, parce que, à peu près, comme vous le disiez, il y a un Français sur deux qui aura un problème hémorroïdaire dans sa vie. Et on est encore à avoir un langage codé, c'est-à-dire que les gens vous disent « j'ai des hémorroïdes », mais ça veut dire rien, tout le monde a des hémorroïdes. C'est comme si, encore une fois, je vous dis, vous aviez des tympans.
Des tympans, voilà, c'est ça.
Rien à voir. En revanche, si vous dites « j'ai une otite », on va comprendre que vous avez une pathologie du tympan. Là, c'est pareil, on ne dit pas « hémorroïdite ». Quand les gens vous disent « j'ai des hémorroïdes », il faut comprendre « j'ai des symptômes liés aux hémorroïdes ». Donc tout ça, c'est codé. Tout ça, c'est codé. Et moi, j'ai ouvert donc les urgences proctologiques et les gens viennent toujours pour des hémorroïdes. Et derrière le terme hémorroïde, vous voyez apparaître des cancers du canal anal, des suppurations, des fistules, et toutes
des choses qui n'ont rien à voir avec les hémorroïdes finalement.
Rien à voir. Les IST, les maladies sexuellement transmissibles, enfin tout ça. Et derrière le vocable hémorroïde se cache toute la pathologie de l'anus et du rectum.
C'est ce que vous ressentez également, professeur Moussavo Kombila, ce que disait le professeur Atienza. Vous découvrez des fois d'autres pathologies?
Oui, effectivement. Bon, pourquoi on dit parfois, on dit un train peut en cacher un autre, parce que généralement, les gens viennent parfois pour, quand ils passent des hémorroïdes, ils viennent en fait, ce sont des saignements anal, et puis c'est comme ça que, des saignements anaux, je veux dire, donc c'est pour ça que, bon, ils viennent en consultation, parce qu'ils viennent avec, en disant qu'ils ont des hémorroïdes, et puis finalement, quand on voit, ce n'est pas les hémorroïdes qui sont à l'origine des saignements, c'est plutôt des pathologies parfois graves, comme le cancer du côlon ou du rectum.
Est-ce qu'il existe des freins au diagnostic et à la prise en charge au Gabon, professeur?
Les freins par rapport à la prise en charge des hémorroïdes?
Ouais, au diagnostic et à la prise en charge.
Non, non.
Tout simplement, est-ce que c'est possible dans tout le pays déjà?
Oui. En tout cas, bon, dans tout le pays, c'est trop dire. Sinon, en tout cas, dans les villes les plus importantes du Gabon, on arrive à faire des endoscopies pour faire. Mais sinon, pour tout médecin généraliste, avec une endoscopie, ils arrivent à faire le diagnostic, en tout cas dans tout le Gabon. Du point de vue diagnostic, il n'y a pas un problème. La prise en charge également ne pose pas tellement de problèmes. Sauf dans les cas où on arrive, par exemple, aux hémorroïdes de stade 3 ou 4. Et là, bon, effectivement, la prise en charge chirurgicale, parfois, peut poser des problèmes.
Allez, pour finir, professeur, vous vouliez donner quelques conseils hygiéno-diététiques qui sont liés à la constipation. Nos auditeurs sont tout ouïes, nous vous écoutons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la constipation et donc peut-être la survenue de crises hémorroïdaires?
Bon, effectivement, parce que nous avons constaté que le plus souvent, les hémorroïdes sont liées souvent aux sujets qui sont souvent constipés. ou qui ont des métiers comme le secrétariat ou des chauffeurs de taxi. C'est souvent ceux-là qui consultent pour ce genre de choses. C'est pour ça que nous pensons que pour éviter les hémorroïdes, il serait souhaitable effectivement de pouvoir lutter contre la constipation, notamment en buvant au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, hein, manger au moins un repas de légumes par jour, faire des exercices physiques au moins 2 fois par semaine, et éduquer l'intestin en allant à la selle tous les matins à la même heure, et puis éviter des lavements intempestifs, c'est-à-dire que quand on est constipé, parce que souvent les sujets, quand ils sont un peu constipés, ils vont avoir tendance à vouloir faire des lavements. Donc, éviter effectivement ces lavements intempestifs en cas de constipation. Bon, je pense que souvent, avec ces mesures-là, on arrive à éviter la constipation et réduire les hémorroïdes, en fait, l'apparition des hémorroïdes. Voilà.
Merci infiniment, professeur Jean-Baptiste Moussavou-Kombila. Je rappelle que vous êtes chef du service d'hépato-gastro-entérologie au CHU de Libreville, au Gabon.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Patrick Atienza, quelles sont les complications possibles lorsqu'on ne suit pas de traitement ou qu'on ne prend pas de pommade, voilà. Quelles sont les complications liées aux crises hémorroïdes ?
Alors les complications, c'est premièrement une altération de la qualité de vie. Il est indiscutable que si vous avez une crise, comme certains patients, presque tous les mois ou tous les 2 mois, c'est-à-dire que vous êtes sur une fesse au moins 15 jours ou 3 semaines par mois, la vie devient beaucoup plus compliquée. Donc on dit qu'à partir de 6 crises par an, des vraies crises de thrombose, je pense qu'il est logique à ce moment-là de faire une ulectomie pour que les gens soient définitivement débarrassés. La deuxième chose, et ça c'est la chose la plus importante, c'est les hémorroïdes qui saignent de façon très importante, si bien que les gens, au lieu d'avoir, comme tout le monde, entre 12 et 14 grammes pour 100 ml d'hémoglobine, se retrouvent parfois de façon assez progressive vers 6, 5, voire un peu moins d'hémoglobinémie. Donc ça veut dire qu'ils
sont... Là, c'est risque d'anémie, c'est quoi?
Oui, c'est une anémie, c'est une difficulté à monter les étages, un essoufflement, des bourdonnements d'oreilles, des céphalées. Et les gens s'en rendent pas toujours compte et ils voient bien que tous les jours, quand ils vont à la selle, ils perdent du sang. Et parfois, on se retrouve avec des tableaux assez préoccupants. Il faut transfuser les gens assez rapidement. Donc là, les hémorroïdes nécessitent un traitement chirurgical pour, si je puis dire, fermer le robinet et que les gens retrouvent une absence d'anémie, je dirais, chronique et vivent beaucoup mieux. Voilà.
Alors, justement, quels sont les facteurs qui doivent nous alerter? Qu'est-ce qui doit nous dire qu'il est important d'aller consulter? Parce qu'effectivement, on est humain, humain trop humain, on a tendance à laisser courir la pathologie. Mais à un moment, il faut se prendre en main et aller consulter.
Voilà, ce qui fait consulter les hémorroïdaires, c'est les saignements. Le sang, ça inquiète quand même. Premièrement, parce que ça peut venir effectivement des hémorroïdes, mais ça peut venir, car la nature est espiègle, de quelque chose de plus haut, c'est-à-dire d'avoir une tumeur ou des diverticules ou même un cancer du rectum, bien sûr. Et il faut s'assurer à partir d'un certain âge. Mais maintenant, on voit les cancers du rectum qui augmentent chez des sujets jeunes, vers 30 ans, dans certains pays du monde. Il faut impérativement s'assurer que ce soit bien les hémorroïdes qui saignent et qu'il n'y ait pas une cause beaucoup plus grave au-dessus. Et faire une coloscopie, bien sûr. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après, vous avez donc les thromboses qui peuvent, comme je vous l'ai dit, gêner considérablement la qualité de vie. Là aussi, il faut traiter à ce moment-là de façon un petit peu chirurgicale pour que les gens soient complètement débarrassés. Et le prolapsus, c'est-à-dire les gens qui ne souffrent que des hémorroïdes qui sortent et qui rentrent, ou parfois qui sortent et qui ne rentrent plus, peuvent bénéficier, certes, du traitement chirurgical, mais aussi d'un autre traitement qui s'appelle l'intervention de Longo, qui consiste en gros à faire un lifting interne, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas les hémorroïdes, mais on assure une fixation pour que les hémorroïdes internes ne ressortent pas.
Allez, 33 1 84 22 75 75, on repasse au standard. Nous sommes avec Gaïtsef. Gaïtsef, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Brazzaville, au Congo. Quelle est votre question?
Oui, ça que depuis presque une année, j'ai des symptômes des hémorroïdes internes. Ça me dérange vraiment, vraiment. Donc, j'ai des troubles de digestion.
Ouais.
J'ai des... Oui, si pour aller au sel, vraiment, c'est très dur. J'ai déjà essayé avec des tisanes. C'est juste un peu de soulagement, mais il n'y a pas une guérison définitive.
Vous vous purgez, c'est ça, hein, pour vous nettoyer et essayer d'aller à la selle, c'est ça?
Oui, j'ai fait un peu des purges pour aller à la selle.
Mais qu'est-ce que vous prenez concrètement? Avec de l'eau ou avec quoi?
Non, j'ai fait ça avec du jus de gingembre.
Ah, vous vous purgez au jus de gingembre?
Oui, oui.
Et ça vous soulage?
Oui, lorsque j'ai fait ça, ça me soulage un peu, mais c'est juste pour un petit moment.
Mmh. Et alors, quelle est votre question, du coup?
Oui, j'aimerais savoir, est-ce que des symptômes que je sens, c'est réellement les hémorroïdes internes? Et après, quelle est vraiment la bonne digestion pour éviter cela, si c'est réellement ça?
Eh bien, écoutez, le professeur Atienza va vous répondre.
Écoutez, merci de votre question. Je pense que vous avez plusieurs choses. Je pense que vous avez peut-être une fissure anale, c'est-à-dire des hémorroïdes, certes, mais surtout une déchirure de l'anus qui fait que quand vous allez aux toilettes, ça fait très mal. Et de là, bien sûr, vous évitez d'aller aux toilettes. Et à ce moment-là, vous avez une espèce d'accumulation de matière dans le rectum, ce qu'on appelle un fécalome. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de le dissoudre pour aller aux toilettes. Donc c'est peut-être pour ça que vous faites des lavements, qui n'est pas, bien sûr, le traitement idéal, loin de là.
Alors, mais... les traitements au gingembre, professeur Atienza...
Je n'en ai pas l'expérience.
Oui, moi non plus.
Mais je pense qu'en France, on utilise des lavements tensioactifs qui permettent de réduire le volume des selles et de permettre leur expulsion. Voilà. Pour le gingembre, encore une fois, je n'ai pas une expérience personnelle. Reste qu'il faut voir absolument si votre canal anal est normal ou pas, parce que les hémorroïdes internes ne donnent pas forcément et ne donnent pas de symptômes dans le ventre. Les hémorroïdes internes, elles sortent, elles saignent, elles peuvent se thromboser sans trop de douleur, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en aucun cas, elles donnent de grandes douleurs internes. En revanche, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des troubles fonctionnels intestinaux, c'est-à-dire des anomalies de fonctionnement du tube digestif, et associer une symptomatologie de fissure, ce qui va tout à fait dans le même sens, ou de pathologie hémorroïdaire associée.
Ce qui serait peut-être bien, Gaïtsev, c'est aller voir un médecin, hein, parce que s'il s'agit d'une fissure, là, il faut consulter, il n'y a pas d'autre choix. C'est envisageable pour vous d'aller voir un proctologue ou de consulter un médecin à Brazzaville?
Oui, je peux le faire, mais je n'ai pas encore fait jusqu'à là.
Bon, bah, ça serait quand même pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, professeur Atienza.
Je pense
mais que
Gaïtsev
voit un médecin, quand même.
Ce serait un très très bon début, parce que il y a probablement plusieurs pathologies qui s'intriguent chez ce patient.
Voilà, hein, ne pas penser uniquement hémorroïdes, comme le disait le professeur Atienza tout à l'heure. D'autres pathologies se cachent derrière ce terme très générique, on le rappelle. En tout cas, merci de nous avoir appelé de Brazzaville. Bonne journée à vous, Gaïtsev. On va partir à Ziguinchor maintenant. Nous sommes avec Diallo. Bonjour, Diallo.
Bonjour, Igor.
Soyez le bienvenu, Diallo. Nous vous écoutons.
Voilà, merci donc de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Donc voilà, je souffre des hémorroïdes, ça fait maintenant plus de 10 ans. Et récemment, quand j'étais en consultation, ils m'ont diagnostiqué une fissure anale. Maintenant, j'aimerais savoir si ce sont les hémorroïdes qui ont provoqué les fissures anales ou bien les hémorroïdes peuvent entraîner des complications urinaires. Parce que parfois, quand j'ai des crises hémorroïdières, j'ai du mal à uriner.
Vous avez aussi du mal à uriner. Eh bien, écoutez, le professeur Atienza va vous répondre. Il a déjà répondu en partie à Gaïtsev à ce sujet, mais on va répéter la réponse.
Oui, la fissure anale et les hémorroïdes ont des symptômes quand même complètement différents. La fissure anale, c'est une douleur qui survient lors de la selle, qui généralement se calme pendant quelques minutes et puis revient très intensément pendant 2 heures ou 3 heures. Donc c'est toujours la selle qui déclenche la douleur. Tandis que dans la maladie hémorroïdaire, en particulier dans les thromboses, vous avez une douleur qui apparaît et qui reste un peu en plateau, parfois pendant plusieurs jours, mais qui n'a pas toujours ce caractère lié à la selle. Voilà.
Satisfait de la réponse, Diallo?
Oui.
Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a répondu à tout?
Oui, l'autre question, c'est pas. Est-ce que les hémorroïdes peuvent entraîner des complications au niveau du système urinaire?
Alors, C'est-à-dire que le faut considérer que le périnée est très riche en fibres musculaires lisses. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la vessie, au niveau du rectum, au niveau du canal anal. Donc tout ce système est en interconnexion. Donc si vous avez une grande douleur anale, il est pas exceptionnel que vous ayez des difficultés à uriner, par exemple. Ou même chez les femmes qui ont aussi du muscle lisse au niveau gynécologique, parfois les douleurs anales peuvent avoir un retentissement ou une douleur projetée, comme on dit, au niveau de l'appareil génital. Donc, ça peut donner du côté fonctionnel une gêne, si vous avez une grande douleur anale, une gêne urinaire. Oui, c'est tout à fait possible et tout à fait explicable.
Mais en traitant les hémorroïdes, on traitera ce problème urinaire également, c'est ça ?
Bien sûr, le problème fonctionnel disparaîtra. Bon. Alors évidemment, si vous avez une prostate très augmentée de volume, d'avoir des douleurs associées n'améliore pas le côté urinaire.
Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos inquiétudes, Diallo. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée à Ziguinchor. Et à bientôt pour d'autres questions, peut-être. Professeur Patrick Atienza, il nous reste un petit peu... Allez, deux petites minutes, on va continuer. Quels sont les traitements les plus efficaces ? Question qui revient également très souvent.
Alors, les traitements efficaces, ça dépend de la symptomatologie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui saignent beaucoup, et à ce moment-là, il faut faire une hémorroïdectomie. Hein. Vous supprimez l'organe effecteur, vous liez les artères terminales. Et donc, le problème.
Donc ça, c'est de la chirurgie, en fait.
Oui, c'est de la chirurgie, ce qu'on appelle l'intervention des deux chirurgiens anglais, Milligan et Morgan. C'est l'intervention la plus classique. Mais c'est une intervention qui demande des soins post-opératoires pendant environ 5 semaines. Que le patient fait lui-même, mais il faut, disons, se conditionner pour dire, voilà, j'ai un problème, je le règle et ce sera définitif. Et puis, vous avez, si par exemple, seulement un prolapsus, on peut imaginer de faire ce qu'on appelle une intervention de longo avec une pince un peu particulière, qui va régler le problème du prolapsus et donc qui va entraîner ce lifting interne. Donc là, il n'y a pas de soins post-opératoires et c'est beaucoup plus simple pour le patient, mais encore une fois, c'est pas dans toutes les indications. Et puis, des gens qui font des thromboses à répétition, si vraiment c'est des thromboses qui gênent la vie sociale et la vie familiale et sexuelle, à ce moment-là, là aussi, il faut faire une résection du tissu hémorroïdaire, une intervention de Milligan et Morgan. Ça, c'est pour les traitements, je dirais, définitifs. Et puis, vous avez des traitements instrumentaux qu'on peut faire au cabinet du médecin, qui marchent très bien. Sans anesthésie, surtout sur les hémorroïdes internes, donc, qui sont peu sensibles à la douleur, et à ce moment là, on arrive très, très bien à contrôler pendant des années, voire définitivement, quelques symptômes hémorroïdaires qui ont gêné les gens pendant une partie de leur vie.
Merci infiniment, professeur Patrick Atienza, d'avoir répondu à nos questions et aux questions des auditeurs. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes chef du service de proctologie médico-interventionnelle du groupe hospitalier Diaconesse Croix à Saint-Simon à Paris.
Merci à vous.
Priorité santé sur RFI.
Priorité santé, suite et fin, avec un tout autre sujet à présent, le programme AFOSCRIM, un programme de riposte contre la Covid-19 pour renforcer la surveillance de l'évolution des variants dans 13 pays d'Afrique. C'est un projet lancé par l'AFD, l'Agence française de développement, l'ANRS, maladies infectieuses émergentes, l'Institut Pasteur et l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Docteur Eric D'Ortenzio, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin épidémiologiste, INSERM ANRS, maladies infectieuses émergentes. Comme le SARS-CoV-2 va continuer à muter, il était important de mettre en place une stratégie de surveillance et de séquençage. Mais de quoi s'agit-il exactement, docteur Eric D'Ortenzio, pardon ?
Oui, alors en fait, vous savez, il existe déjà des plateformes de séquençage dans certains des pays africains. L'idée avec ce projet, c'est de renforcer les laboratoires pour avoir des capacités renforcées et surveiller l'évolution du SARS-CoV-2. Donc, on a réuni plusieurs instituts de recherche. Je suis désolé, j'ai un écho et c'est difficile.
Et on va régler ça hors antenne, rassurez-vous.
Merci. Et donc, l'idée principale, c'est de répondre aux besoins de surveillance du SARS-CoV-2 et de ses variants pour mieux évaluer la diffusion de la dynamique de la diffusion du virus.
Parce que pour l'instant, en fait, Eric Dortenjo, ce qu'on sait, hein, c'est que la pandémie a touché près de 6 millions de personnes en Afrique, a provoqué environ 150 000 décès. Mais au fait, c'est très difficile de déterminer si ces chiffres reflètent correctement la situation épidémiologique. C'est ça ? Vous avez besoin de plus de précisions ?
Alors oui, ça c'est un autre point effectivement qui ressort, c'est-à-dire que les données de surveillance actuellement donnent les chiffres que vous avez donnés, donc 6 millions de cas, 160 000 décès. Quand on regarde les études de séroprévalence, donc ce sont des études montrent des taux d'anticorps chez des patients prélevés, dans certaines zones et surtout dans les capitales de certains pays d'Afrique, on voit qu'on est à des taux d'environ 20%, donc ce qui voudrait dire qu'on est probablement en sous-estimation du nombre réel de cas. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Ça veut dire que le virus circule, et d'autant plus avec les nouveaux variants. On voit avec le variant Delta, par exemple, en RDC, en Tunisie, en Botswana, il y a une augmentation considérable des cas. Et donc, c'est aussi important, en parallèle de ça, de surveiller ces variants et l'éventuelle émergence de nouveaux variants. Donc, il faut séquencer le plus possible pour être attentif et communiquer sur ces nouveaux variants.
Alors, c'est un programme sur 2 ans qui devrait permettre justement de réaliser 34 000 séquençages et 54 000 PCR de criblage. Ça mobilise 19 laboratoires dans 13 pays africains. Est-ce que les laboratoires avec lesquels vous travaillez ont les capacités de réaliser le séquençage, par exemple ?
Eh bien, justement, donc c'est tout le cœur de ce projet, c'est-à-dire que ces laboratoires dans les 13 pays d'Afrique vont être également renforcés, c'est-à-dire qu'on va apporter des équipements, des réactifs, il y aura des formations à ce séquençage, il y aura des formations pour la bioinformatique, pour savoir comment déposer aussi les séquences dans les bases de données gratuites et publiques type GISAID pour que la communauté internationale puisse avoir accès à toutes ces séquences. Donc c'est vraiment le cœur de ce projet, c'est-à-dire que certains ont déjà des capacités, font du séquençage en routine, d'autres non. Et donc l'idée, c'est que en se focalisant sur ce réseau que chacun des partenaires a depuis longtemps, donc IST Pasteur, IRD et ANRS, c'est de développer encore plus les capacités de séquençage dans ces laboratoires.
En fait, il faut que chaque pays dispose d'outils permettant d'identifier l'émergence des nouveaux variants. Aujourd'hui, variant Delta, mais demain, d'autres variants peut-être, c'est ça ?
Exactement. Il faut que chaque pays soit en capacité, que ce soit en Afrique, mais dans le monde entier, parce que si on est aveugle dans certains pays, ça donne la possibilité à ce variant de diffuser dans le pays et ensuite de s'exporter dans d'autres pays. Donc il est très important que chaque pays puisse séquencer et analyser les séquences et ensuite partager ces séquences à tout le monde pour qu'on soit bien attentif à ce qui circule. Donc quand on regarde cette base de données dont je parlais, GISAID, on voit que sur le continent africain, les séquences déposées ne représentent que 1% du total mondial. On est à plus de 2 millions de séquences déposées. Hein. Et donc 20 à 25 000 en Afrique, on voit bien le besoin en fait qui est identifié pour ces pays où le virus circule. Hein.
Bien
sûr. On a des indicateurs, hein. Donc c'est essentiel hein, comme renforcement.
C'est essentiel, on s'arrêtera là. Merci infiniment, docteur Eric Dortenzio. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste, INSERM ANRS, maladies infectieuses émergentes. Bonne journée à vous.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Demain, nous parlerons des hépatites B et C. Et nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Ophélie Lassène, Louise Calédec, Didier Bleu, Laurence Neuiger-Strauss, nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de RFI et nous vous disons à demain.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous garantit un bon voyage avec une assistance médicale d'urgence pendant votre séjour ainsi que la recherche de vos bagages en cas de perte. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.